soir. Pendant une heure, la CGT, rien que pour vous.
Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure avec la CGT de Vierzon. Donc à Vierzon, comme ailleurs, il est un peu plus de 18h et vous êtes bien sur Radio Tintouin. Donc je rappelle que vous pouvez nous écouter donc, sur la bande FM, sur votre poste, sur le 101.8, la fréquence. Et je rappelle que vous pouvez réécouter, si vous ne pouvez pas l'avoir en direct, réécouter en podcast. Donc vous tapez radiotintin.org et vous avez tous les éléments. Et surtout, ne touchez à rien, vous êtes bien sur Radio Tintouin. Voilà, après cette courte présentation, donc une petite intro quand même, hein, il fait beau, le soleil brille. Le mois de mai, c'est le mois des roses, a dit le poète. Et bien pour la CGT, c'est le mois des revendications. Pas que, hein, parce qu'on revendique sans arrêt. Mais le mois de mai est plus propice. Revendication d'abord pour la paix dans le monde et sans délai ni tergiversation. Que cessent ces guerres et que les gens vivent ensemble et heureux, ça c'est possible, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion ou leur conviction, débarrassés de ces contraintes du capital qui, même avec la guerre, se sucre largement sur le dos du plus grand nombre d'entre eux. C'est Albert Camus qui, je crois, disait, alors vous me reprendrez si je me trompe, hein, vous aurez gagné une adhésion, il disait « La guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas au profit d'autres qui se connaissent très bien. Par contre, là je suis sûr, Jacques Prévert disait aussi « Quelle connerie la guerre ». Revendication pour la satisfaction des revendications, qu'elles soient salariales, de bien-être au travail ou dans leur vie. Que cesse la criminalisation de ceux qui ne font que défendre ni plus ni moins que leur emploi ou celui de leurs camarades. Je parle des responsables syndicaux. Je rappelle qu'on a plus de 1000 camarades qui sont poursuivis par la justice et c'est une épée de Damoclès qu'ils ont sur la tête qui n'est jamais agréable à supporter. Voilà, tout cela sous l'exploitation éhontée de ce capitalisme. Aidés par des forces réactionnaires, chez nous, droite et extrême droite, ils s'entendent comme l'arme en foire, on n'arrive même plus d'ailleurs à en faire la différence entre eux. En attendant, quelques courants nauséabonds montent et c'est inquiétant. Revendication pour les salariés et enfin que ceux-ci récoltent les fruits de leur travail et qu'ils soient intéressés et décideurs à la marge de leur entreprise. Et je pense que ça irait autrement, car contrairement à ce qu'on le voudrait nous faire croire, les entreprises ce ne sont pas que des actionnaires et des patrons. Sans la force de travail des salariés, que serait ce petit monde? Sûrement rien. Enfin, revendication pour une planète qui respire un peu plus et surtout un peu mieux, libérée de l'exploitation inconsidérée de ses ressources pour nourrir un capitalisme toujours aussi vorace et pingre à la fois. Donc, en quelque sorte, un programme bien chargé que nous allons vous présenter sans plus tarder, car une heure, ça passe vite. Alors, Tony, à toi de nous dérouler le programme de ce soir.
Alors, Michel, en premier, nous aurons l'après-municipale. Le thème 2 sera le monde du travail à l'offensive. Le thème 3 sera la classe aux pauvres. Le thème 4, l'IHS plus la colo de Péronne. Et le thème 5, le 1er mai.
Voilà, ben merci Denis, je crois que c'est assez nourri. Alors effectivement, lors de notre dernière précédente chronique au mois de mars dernier, nous ne savions pas ce qui ressortirait des élections municipales, puisqu'effectivement, cette rubrique avait lieu le 17 mars et que le deuxième tour avait lieu le 22. Alors, même si la CGT, nous étions suspendus à un espoir de voir se poursuivre l'action municipale menée par l'équipe sortante, nous émettions des craintes quant à la survenance d'une équipe municipale qui, si elle ne dit toujours pas son nom, est à forte consonance d'extrême droite et donc animée par des idées que nous ne partageons pas à la CGT. Pour autant, nous sommes des démocrates et en cela nous respectons le verdict des urnes, et nous l'acceptons, ce verdict qui a placé à Vierzon l'équipe de M. Leroux. Nous ne porterons pas de jugement a priori sur sa gestion, mais nous pouvons penser que des changements interviendront dans les semaines, voire les mois à venir. Nous jugerons sur les actes de cette nouvelle équipe, et nous voulons lui rappeler que les députés qui les ont soutenus, je peux parler du groupe RN et UDR en tête, ont voté lors du budget 2026 une mesure permettant de priver de 4 milliards d'euros les collectivités, alors qu'elles soient régionales, départementales et locales, donc c'est le cas de municipalités. Ce qui représentera une première difficulté pour faire fonctionner la ville. À moins que M. Leroux nous sorte quelque chose de son chapeau, mais comme dirait l'autre, les miracles n'ont pas cours en une république qui est laïque et que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc la CGT, indépendante mais pas neutre vis-à-vis des affaires publiques, est toujours dans la droite ligne qu'elle a depuis très longtemps la défense des intérêts des travailleuses et des travailleurs de cette ville, gardera son appréciation, son libre arbitre et émettra des avis en tant que de besoin. D'ici là, nous conservons notre liberté d'action et de parole, sans être dans l'outrance ou la caricature, mais bien dans le sérieux que réclame cette situation. Nous resterons bien sûr vigilants sur les actions que mènera la nouvelle équipe à la tête de notre cité. Voilà, eh bien on va respirer un petit peu avec une petite pause musicale. Moonlight Shadow, un classique de Mike Oldfield. Voilà, bah après cette petite pause musicale, hein, on va reprendre le déroulé de notre programme. Alors, Tony nous annonçait tout à l'heure que le monde du travail devait être à l'offensive et dans cette période, on ne peut plus. Conséquence de la voracité des intérêts capitalistes et des logiques impérialistes, la flambée des carburants frappe durement la grande majorité de la population. C'est notamment le cas de millions de travailleuses et de travailleurs qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture pour rejoindre leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle. Plus largement, la guerre déclenchée par les USA et Israël a un impact global sur les tarifs de l'énergie et donc, dans cette économie mondialisée, sur l'ensemble des prix et de l'activité économique. Cette inflation ne relève pas de la réalité. Elle est le fruit de la nature capitaliste du système économique. Elle découle de choix politiques et elle se traduit par des transferts financiers massifs. Pour faire face à l'envolée des prix et des profits, parce qu'il y en a qui gagnent quand même dans l'opération, toutes les guerres rapportent, mais pas au même, il y a urgence à prendre des mesures. Par exemple, chez nous, le gouvernement peut agir très vite en bloquant les prix à la pompe, mais pas que. Il peut donner un coup de pouce, même les coups de pouce, on en a manqué, il pourrait même y mettre la main, concernant l'augmentation du SMIC, du point d'indice de la fonction publique, et indexer les salaires et les pensions et les minima sociaux. Là, ce serait déjà une première mesure qui permettrait d'amortir cette crise. Le grand patronat doit aussi être mis à contribution par une taxation des profits colossaux, engrangés notamment par les multinationales du pétrole. Et si on veut citer notre fleuron national, Total Energy a engrangé 1 milliard de dollars en spéculant sur la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc la guerre, ça rapporte, mais pas à tout le monde, comme je le disais. Selon la CGT, la crise actuelle appelle des réformes structurelles, comme le rétablissement de l'indexation des salaires sur l'inflation, qui serait une mesure de justice sociale. Les salariés ne sont pas la cause des maux MAUX qui les frappent. L'indexation des prix de l'électricité sur ceux du gaz et les obligations du marché imposées aux opérateurs nationaux entraînent une envolée des prix pour les usagers, tant que les ménages que les entreprises. Cette situation est aggravée par une dépendance croissante à l'égard des multinationales s'agissant de la production de carburant et plus largement du raffinage des produits pétroliers. L'énergie doit être sortie du cadre délirant du marché européen. Des tarifs régulés doivent être garantis pour toutes les énergies. Enfin, la crise énergétique et ses conséquences sur notre quotidien viennent nous rappeler combien les affaires du monde sont les nôtres et combien la guerre est une impasse mortifère pour l'humanité. Ici ou ailleurs, il nous revient d'agir résolument en faveur de la régulation internationale, de la justice sociale, contre les impérialismes et leur bellicisme qui tuent au profit d'une minorité de possédants. Et je fais un lien, je parlais de justice sociale, mais la justice sociale ne va que de pair que s'il y a une justice fiscale. Après donc ce constat, et pour la CGT, le monde du travail doit être à l'offensive. Au niveau national, comme sur le plan international, l'heure est à la mobilisation sociale et citoyenne pour imposer des choix politiques fondés sur la justice sociale et la démocratie. Donc face à un capital à l'offensive qui avance, qui installe à vitesse croissante sa solution fasciste, on le voit déjà dans certains pays européens, tout dépendra de la combativité du monde du travail et de l'unité des forces progressistes. En France comme ailleurs. Et donc le 1er mai dont nous évoquerons tout à l'heure un petit peu l'historique et ses raisons d'être, puisqu'il est attaqué par le gouvernement, sera pour la CGT ce 1er mai la première étape importante pour ce début de mobilisation. Donc un 1er mai fort et unitaire peut être le début d'un changement pour les travailleuses et les travailleurs qui n'en sont pas moins citoyennes et citoyens. Petite page musicale avec Renaud.
Y'a eu Antoine avant moi, y'a eu Dylan avant lui, après moi qui viendra, après moi c'est pas fini. On les a récupérés, oui mais moi on m'aura pas, je tirerai le premier et je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi, société, société. Tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme qui étaient pas vraiment virils mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains, j'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas.
Voilà, on va reprendre notre programme, alors qu'on a intitulé tout à l'heure « La chasse aux pauvres ». Alors, la chasse officiellement est fermée, hein, par quelques battues, mais le gouvernement s'obstine et lui, il chasse les pauvres. Alors, on lui avait déjà conseillé d'autres forces, lui conseille de chasser plutôt les riches. Alors, il va faire peut-être quelques malheureux, parce que j'ai vu dans la presse que quelques familles avaient été rappelées, retirées par l'oreille pour venir payer un petit peu ce qu'ils devaient. C'est un petit peu, on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Voilà, donc, comme vous le savez, il existe une trêve hivernale, celle qui consiste à ne pas expulser les gens de leur logement, fut-il social, de fortune ou dépendant d'un marchand de sommeil. Mais depuis le 1er avril, et là c'est pas un poisson, cette trêve est rompue et de nombreuses personnes se retrouvent à la rue. Dans notre société capitaliste qui nous dit-on plutôt va si bien, ce sont 30 500 expulsions qui ont été opérées par la police, soit 2 fois plus qu'en 2015. Alors, le roi Macron n'avait-il pas annoncé au début de son premier mandat qu'avec lui, plus personne ne dormirait dans la rue? Mais comme le disait Machiavel, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Au-delà du fait que cela soit un drame dans nos sociétés dites avancées, il y a aussi des travailleuses et des travailleurs qui sont frappés par ces mesures. Ce sont des ménages expulsés, parfois pour quelques centaines d'euros, des procédures absurdes ou des parcours de vie brisés. Une enquête de 2022 de la Fondation du Logement révèle que 3 ans plus tard, 32% d'entre eux n'avaient toujours pas retrouvé de logement, ou vivent à l'hôtel, ou chez un tiers, ou sous d'autres formes de non-logement, quand on sait que le logement est le premier poste budgétaire d'un foyer. Et plutôt que de régler la crise du logement, l'État s'en prend aux plus faibles. Alors, dans sa dernière élection de 2017, Emmanuel Macron, depuis sa première élection, je dirais, Emmanuel Macron n'a eu de cesse de satisfaire qu'un camp, celui de la grande finance avec l'argent public. Hein, je rappelle l'aide aux entreprises chiffrée en 2025 par la commission sénatoriale à 211 milliards par an. Mais il sévissait déjà sur le quinquennat de François Hollande, donc ces mesures ne sont pas nouvelles. Il y a dans cette France un air de fin de règne qui semble solder les comptes et on s'appuie sur la tête de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre ou même survivre. Fin de règne qui accélère les mesures les plus antisociales avec cette chasse aux pauvres. Alors je rappelle qu'effectivement les deux quinquennats Macron conjugués aux lois El Khomri du temps de François Hollande, ça a été une des périodes de ce siècle et même de l'ancien siècle les plus féroces en matière d'attaque, soit de droits sociaux et voire même de droits tout court. Donc il faut bien qu'il y en ait qui paie pour ceux qui ne contribuent pas au fonctionnement de l'État. Alors pour preuve, le gouvernement présentera aux députés dans les prochaines semaines un projet de loi qui va concerner près de 4 millions de personnes sur la création de l'ASU. Je rappelle que c'est l'allocation de solidarité unifiée. Alors c'est un vieux mythe, dans le premier mandat Macron, il avait déjà eu l'idée de tout fusionner, les minima et ses allocations. Donc il s'agit là effectivement d'une promesse du candidat Macron de fusionner ses minima au risque de faire beaucoup de perdants et sans affronter la précarité croissante qui entretient la pauvreté. Alors quand je disais que ça va pas mal pour tout le monde, effectivement, quand on parlait de fraude, la fraude, il faut en parler, hein, la fraude fiscale et la fraude sociale. Alors on nous dit, il n'y a pas de sous. La fraude fiscale est évaluée, alors elle ne peut être qu'évaluée, puisque par nature on ne sait pas ce qui part, mais on sait à peu près ce qui échappe à l'État. C'est entre 70 et 100 milliards par an. On peut faire des choses avec ça. Hein. La fraude sociale, c'est 14 milliards. Et ça, ces chiffres sont justifiés par Bercy, hein, puisqu'ils ont des indicateurs pour apprécier qu'il y a 14 milliards. Dans ces 14 milliards, c'est pas tout imputable à celui qui veut rien faire et qui trouverait l'idée de rester chez soi et que ça tombe. Ça, c'est un mythe. Je rappelle que c'est plus de 56%, c'est dû au non-recouvrement, donc les cotisations URSSAF, effectivement, ça pénalise tout ce qui est le social, et que la fraude sociale imputée aux assurés, c'est 32%. Le reste, c'est des employeurs qui ne satisfont pas à leurs cotisations, à leurs obligations de contribuer à la vie de l'État. Donc il faut qu'on casse ces mythes, et je le disais tout à l'heure, tant qu'il n'y aura pas de justice fiscale, il ne pourra pas y avoir de justice sociale. Donc je crois que c'est l'affaire, on en reparlera probablement le mois prochain, puisque ça doit arriver fin avril. Alors si ça a le même avenir que la proposition de loi du 1er mai, mais on en parlera tout à l'heure, tant mieux. Quand je disais tout à l'heure que la mobilisation doit être forte, elle ne doit pas se relâcher, y compris sur ces sujets-là. Voilà, et ben petite pause musicale, et ben Micran Adamo.
Migrant, je veux jouer ma vie pour une autre meilleure, où fleurissent les sourires aux visages qui pleurent. Repoussé par les uns, ignoré par les autres, j'espérais que mon sort ressemble un peu au vôtre. Mais que vous importe au fond, notre coquille de noix. Migrant, j'ai traversé la mer jusqu'à la première île. Le vent nous a posés sur des rives hostiles. L'enfer de mon pays ne me laisse que le choix de ce rafio bondé. D'autres ombres sans voix pour aller voir ailleurs si la vie n'y est pas. Pour aller voir ailleurs si la vie n'y est pas. Avec femme et enfant, entre cris et prières, nous nous sommes traînés jusqu'au mur des frontières. Certains ferment les yeux et nous disent bonne chance. D'autres sont-ils sérieux, nous renvoient en errance. Migrants, tout au bout du tunnel, je voyais la lumière. On m'a coupé les ailes, on m'a jeté par terre. Je me suis retrouvé comme un délinquant derrière des barbelés, parqués avec mes frères. À me sentir coupable d'être encore vivant. À me sentir coupable d'être encore vivant. Alors frères humains qui autour de nous vivez, n'ayez point contre nous le cœur trop endurci. Vous qui voyez nos mains tendues, désespérées, pour un peu de répit, prêtez-nous un abri. Nous ferons de notre mieux pour ne pas déranger. Migrants, des années de labeur pour payer le voyage. Le passeur en fuyant nous a crié courage. On s'est cru arrivé, mais le monde est-il fou? On nous montre du doigt et on a peur de nous. Nous qui fuyons la mort, nous qui sommes à genoux. Nous qui fuyons la mort, nous qui sommes à genoux. Migrants, migrants, migrants.
Voilà, et bien c'était Micran, un titre de Adamo de 2019 déjà qui évoquait effectivement la réalité de ce qu'on peut vivre et qu'on tait sous parce que l'actualité nous bouscule sur d'autres fronts. Et je rappelle quand même que la Méditerranée reste le premier cimetière humain au monde. C'est quelque chose qu'il faut signaler. Et les causes, c'est ben, voilà, des sociétés qui partent exploiter d'autres ailleurs. Et quand la misère est là, ben, on peut comprendre qu'on essaie d'aller voir ailleurs si c'est meilleur. Donc s'il y avait de bonnes collaborations entre les pays, ça permettrait aux gens non pas de fuir, mais de vivre tranquillement chez eux. Alors, sur ces entrefaits, ben, je vais passer la parole à Tony qui va vous faire un petit peu d'informations sur l'IHS. Alors, je rappelle, c'est l'Institut d'Histoire Sociale, la CGT. Alors, on l'a déjà évoqué, on avait eu Jacques Blondeau et Jean-Pierre Sobla qui étaient venus en parler il y a quelques mois de cela. L'IHS, on a considéré que c'est mieux de connaître d'où on vient pour vivre le passé et préparer l'avenir. Donc, voilà. Et puis, une deuxième œuvre. Alors, on appelait ça autrefois de bienfaisance, mais une œuvre sociale qui est plus communément connue, les œuvres de la colonie de Péronne. À toi, Tony.
Donc, comme Michel l'a très bien dit, comment savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient ? À Vierzon, des militants de la CGT font vivre notre Institut d'Histoire Sociale. Nous participons ainsi à la vie de l'Institut au niveau de la région, centre et du département du Cher. En ce qui concerne Vierzon, vous avez peut-être déjà pu lire Les Lutres de Cazes, mai 68, témoignage dans le Cher et de la PM à la Denisonne, puis par cœur. C'est toujours un plaisir de rencontrer nos anciens pour écouter leur vécu. Mais aussi, notre travail ne doit pas s'arrêter là. Notre ville, Vierzon et son bassin d'emploi ont de nombreuses richesses économiques et sociales qu'il faut mettre en valeur avec les verreries, la porcelaine, la confection, le machinisme agricole, la métallurgie, le bâtiment et les commerces. Sans oublier les services publics, EDF, GDF, SNCF, la poste, l'hôpital, les territoriaux. Nous tous, retraités, travailleurs et militants CGT, avons dans nos locaux des documents, photos, tracts, PV de réunion, manifs, grèves. Une de nos tâches, c'est de les conserver et les faire connaître auprès de notre union locale, afin de ne pas perdre notre histoire à tous. D'autres, individuellement ou collectivement, ont déjà travaillé sur cette histoire commune. Comme le livre de sociologie de Laurent Hocher sur les prud'hommes, sur LBM, avec des témoignages de métallos. Également le travail d'un professeur Henri Letourneau sur la porcelaine. Un recueil a été créé par le musée de la Résistance sur tous nos camarades résistants et ceux qui ont subi des camps de concentration. Plus anciens encore sur les Vierzonais ayant participé à la Commune de Paris. Nous pouvons prévoir à faire connaître des camarades dont les noms sont sur plaque des rues de notre ville, de nos communes. En consultant le Métron sur Internet, dictionnaire du mouvement ouvrier, nous pensons qu'il serait bien de mettre en lumière l'action des Vierzonais qui ont milité pour l'économie et le social, sans oublier toutes les actions pour la paix. Alors, fouillez dans vos greniers et bibliothèques, dans vos locaux syndicaux, et venez nous voir à l'UL de Vierzon pour nous en faire partager. La deuxième œuvre que je voudrais parler, c'est une œuvre sociale qui a été créée en 1945 par l'UD des syndicats CGT du Cher, qui a décidé d'offrir des vacances réparatrices aux enfants de notre département en location à Allogny, puis Subligny et Chambon-la-Forêt. En 1954, Maurice Louis et Louis Piétu, au nom de Jean Andros, secrétaire de l'UD, signent la promesse d'achat de la propriété de Péronne située en Saône-et-Loire, non loin de Mâcon. En 1980, l'UD a confié la gestion de sa propriété à l'œuvre de vacances de Péronne. Depuis sa création, près de 20 000 petits birichons ont profité de vacances d'une grande qualité à des tarifs inférieurs de 30% aux autres colos, grâce à ces militants qui l'entretiennent par des travaux bénévoles et qui en assurent le fonctionnement. Les deux dernières années se sont bien déroulées, malgré un effectif limité dû à la pandémie en 2022, mais qui depuis a repris ses couleurs. De nombreuses personnes se sont inscrites sur le site internet www.colo.perron.fr, où il est également possible de suivre la vie de la colo. Il est donc fortement recommandé de ne pas attendre, car il n'y aura pas de place pour tout le monde. Alors pour Vierzon, ça sera à partir du 5 mai les inscriptions à l'ULCGT de Vierzon 11 rue Marcel Perrin, de 17h à 18h30. Donc je vous rappelle, les séjours, c'est pour les enfants de 6 à 14 ans. Alors pour vous informer un petit peu plus, donc on a des séjours de 21 jours à 999 €, 15 jours à 825 €, 14 jours à 770 €, 8 jours à 440 € et 7 jours à 385 €. À cela, il faudra déduire les aides que vous pourrez bénéficier.
Une petite pause musicale avec Little Texas.
God bless Texas. First he let the sun shine, then he made the waters deep. Then he gave us moonlight for all the world to see. Well, everybody knows that the Lord works in mysterious ways. God bless Texas. God bless Texas. Life been sent to spread the message. God bless Texas. Life been sent to spread the message. God bless Texas.
Voilà, ben, dernier thème de notre émission, annoncé par Tony tout à l'heure, hein, le 1er mai. On s'en approche, et ben, il est d'autant plus d'actualité que ça se bouscule, non pas dans les chaumières, mais dans les hautes sphères du pouvoir. Donc, je dirais que leur faut-il de plus ? La Macronie, aidée par d'autres formations loin de représenter les intérêts des travailleurs, monte à l'assaut du 1er mai. Alors après nous avoir piqué la lundi Pentecôte, rappelez-vous, c'était pour les retraités, hein, le gouvernement s'attaque à un symbole sous prétexte de laisser la liberté aux travailleurs de travailler le 1er mai dans des commerces tels que les boulangeries et les fleuristes. Alors je signale au passage quand même que le travailleur, c'est quelqu'un qui est lié par un contrat, hein, le salarié, les contrats entre un employeur qui le paye pour ce qu'il fait et en échange de quoi il reçoit un salaire. Donc quand on parle de liberté de travailler, à moins d'être indépendant, ça va être difficile chez un employeur. Et donc il est subordonné à cet employeur. De fait, il n'est pas libre de décider lui-même De plus, ce n'est pas l'intérêt des petits commerces, mais la grande distribution qui n'attend que ça pour s'engouffrer dans la brèche sans que le petit commerce y retrouve son compte pour autant. Donc le gouvernement, aidé par le groupe Renaissance de Gabriel Attal, qui manque cruellement d'idées, reprend simplement à son compte une proposition de loi des Républicains au Sénat pour obliger 1,5 million de salariés pendant la journée à travailler pendant la journée internationale du travail. Alors effectivement, il y a débat, est-ce que c'est une fête, on va revenir tout à l'heure sur l'historique et ses rebondissements, parce qu'il y a eu des phases dans l'histoire, et c'est intéressant d'y revenir, où le 1er mai a été quand même, je dirais sanglant, mais a porté ses fruits. Certes, c'est sous la pression, le ministre du Travail préfère tempérer, mais soyons vigilants quand même. De quoi parle-t-on ? Le 1er mai serait comme n'importe quel autre jour, mais c'est nier son histoire. Nous le disons souvent, pour savoir où on va, il vaut mieux savoir d'où on vient. Alors comme on l'a dit tout à l'heure avec l'IHS, il faut puiser dans l'histoire et on va éclairer le présent pour construire l'avenir. Donc l'acte de naissance du 1er mai pourrait être fixé en 1889, je pense, dans ces eaux-là, où il est décidé que sera organisée une grande manifestation internationale à date fixe pour exiger, je rappelle, la journée de 8 heures de travail. Alors Tony, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus, au-delà de l'attaque gouvernementale, parce que le grand patronat, on sait qu'il est toujours revanchard. Partout où il peut gratter, c'est ça, et il sait qu'il a des appuis institutionnels qui lui permettront d'avancer un peu plus loin.
Il faut savoir qu'on a eu de très nombreux 1er mai sanglants dans l'histoire, dans l'historique de ce 1er mai, donc, qui commence en fin 1884. C'est la Fédération syndicale américaine de l'époque décide de placer à l'ordre du jour la conquête de la journée de 8 heures sans perte de salaire. À l'époque, on travaille 14 heures par jour et 6 jours par semaine. Donc on s'est un peu amélioré.
Oui.
Et fixe comme échéance une journée nationale de grève au 1er mai 1886. Ce jour-là, des grèves et des manifestations éclatent partout. Dès le lendemain, à Chicago, une première provocation policière fait 6 morts. Une deuxième, le surlendemain, 17 morts. 5 leaders ouvriers sont arrêtés, condamnés à mort et pendus. Dans tous les pays industrialisés à l'époque, les exigences des travailleurs étaient les mêmes face à l'exploitation capitaliste. Et déjà à cette époque, le patronat s'opposait à ces revendications ou en invoquant la concurrence internationale. C'est pourquoi, en 1889, le Congrès international ouvrier de Paris prit la décision d'une journée de lutte des travailleurs pour leurs revendications et leur émancipation à la date du 1er mai. Fut retenue en hommage aux militants ouvriers américains assassinés. La résolution adoptée eut le texte suivant. Il sera organisé une grande manifestation internationale à date fixe, de manière que dans tous les pays et dans toutes les villes, à la fois le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à 8 heures la journée de travail et d'appliquer les autres résolutions du Congrès international de Paris. Dès le 1er mai 1890, des centaines de milliers d'ouvriers font grève et manifestent malgré la répression partout dans le monde. Le 1er mai 1891 en France, à Fourmies dans le Nord, l'armée tire dans la foule, il y aura 10 morts. Le 1er mai 1906 à Paris, la répression fait 2 morts, 800 arrestations. 1919, par crainte de la révolte ouvrière, le gouvernement et patronat cèdent la journée de 8 heures, mais sur 6 jours. Il faudra la grève générale de mai-juin 1936 pour arracher la loi des 40 heures, 8 heures en 5 jours. Les congés payés, la généralisation des conventions collectives, l'augmentation moyenne des salaires de 20%.
Alors je rappelle que c'était le Front Populaire, une victoire de la gauche qui arrivait aux affaires avec des avancées sociales significatives, dont on a encore quelques fruits aujourd'hui.
Le 1er mai n'appartient qu'aux salariés. Depuis ce jour, en France, le 1er mai a toujours été pour les militants ouvriers et les syndicalistes une journée de manifestation, de lutte et de revendication. La fusillade du 1er mai 1891 à Fourmies est entrée à jamais dans l'histoire de France et des luttes sociales ouvrières. La ville de Fourmies a atteint son apogée industriel et démographique en 1891. Elle compte alors près de 16 000 habitants, en majorité des ouvriers, qui vivent des conditions d'insalubrité importantes. Parallèlement à une baisse de salaire de 10 à 15% entre 1882 et 1891, le prix du pain a augmenté de 20% et celui du charbon de 44%. On pourrait faire un petit amalgame avec l'essence aujourd'hui.
Il y a quelques parallèles avec des conditions de vie aujourd'hui, où effectivement les conditions de travail se dégradent, alors par différents mécanismes. Hein, la réforme des institutions représentatives du personnel, qui fait qu'on a limité les moyens pour que les gens puissent se défendre, avec une dispersion du salariat qui est difficile à regrouper et à faire lutter. Et effectivement, comme tu disais, des dégradations, voire des augmentations. Alors on est quand même près d'un siècle et demi après, on peut se demander, quand on dit une société avancée, on peut avoir quelques doutes quant à ce qu'on considère ces gens qui font fonctionner cette société.
Durant l'hiver 1890-1891, plus de 2000 personnes sont ainsi secourues par le bureau de bienfaisance de Fourmies. Le contraste avec la richesse du patronat est de plus en plus insupportable et révoltant pour l'ouvrier. À l'approche du 1er mai, on craint des mouvements de grève plus forts qu'en 1890. Début avril, la journée du 1er mai 1891 à Fourmies est préparée par des responsables du Parti ouvrier français, tels Hippolyte Culine et Paul Lafargue, gendre de Karl Marx, futur député du Parti ouvrier en novembre 1891 à Lille. On y dénonce les conditions de travail déplorables et on revendique la journée de 8 heures de travail. Selon le programme, les ouvriers étaient invités à porter à 10 heures leurs revendications à la mairie. Des festivités l'après-midi et un bal en soirée étaient également inscrits au programme. À 9 heures, la plupart des ouvriers de la ville sont en grève. Une seule filature reste en activité après une échauffourée avec les gendarmes à cheval. 4 manifestants sont arrêtés. Le premier slogan de la journée, c'est 8 heures qu'il nous faut. Et alors devenu, c'est nos hommes qu'il nous faut. Le reste de la journée se déroule sans aucun incident majeur.
Avant la Première Guerre mondiale, je crois que les gens étaient obligés de poser une journée parce que ce n'était pas un jour férié ou tout au moins chômé. Alors effectivement, si on veut avancer un peu plus, je vais revenir sur cette actualité. C'est pas innocent si on s'attaque au 1er mai, ça commence comme ça. Hein.
Ça a commencé avec le général Pétain.
Ah eh voilà, oui.
Eh bien oui, le général Pétain qui remplacera la fête du travail par une journée où on aura le slogan « Famille, travail, patrie ».
Oui, c'est quelque chose qu'on voit ressurgir dans quelques groupuscules actuellement. Donc, vous voyez, l'histoire a des terribles revers et je crois que c'est bon de le savoir si on ne veut pas retomber dans des situations aussi dramatiques. Alors, effectivement, il y aurait beaucoup à dire sur ce 1er mai et à ce sujet, je voudrais reprendre quand même l'intervention. En date du 8 avril, notre Union départementale des syndicats du Cher, CGT, est intervenu hein, auprès des députés, des trois députés du Cher. Hein. Alors, je ne vais pas alourdir, mais je rappelle les grandes lignes de ce. Hein, donc, Sébastien, au titre de l'Union départementale, s'adressait aux députés. Alors, en gros, il rappelait que ce principe n'était pas un privilège, mais le fruit de plus d'un siècle de lutte sociale. Il précisait que ce projet de loi qui s'apprêtait à être discuté ne répond à aucun besoin réel. Et l'argument d'insécurité juridique est un écran de fumée, comme le démontrent les sanctions quasi inexistantes. Par rapport aux employeurs hein, qui feraient travailler leurs salariés. Et il précise également, ce projet élargit considérablement les secteurs autorisés à faire travailler le 1er mai et chez Cassé que ces dérogations ont vocation à s'étendre. Par ailleurs, le prétendu volontariat, on en parlait tout à l'heure, c'est une illusion. Hein, dans un rapport de subordination salariale, on le rappelle, chacun sait que le refus est souvent impossible sans subir de pression ou de conséquences sur l'emploi. Alors, on ne dit pas que tous les patrons sont des matraqueurs, mais quand même, c'est quelque chose. Il faut enlever ce mythe que le salarié sera libre de travailler comme il veut. Et qui dit travail dit salaire, donc effectivement, travailler le 1er mai reviendrait en réalité à être payé normalement pour une journée qui est déjà rémunérée sans travail, donc je vois pas tellement le bénéfice. Et enfin, le 1er mai n'est pas un jour comme les autres, il est la journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs, c'est ce qu'on a rappelé, et en gros, il interpellait en disant au nom des travailleurs du département, la CGT demande de vous opposer à ce texte et de voter contre cette régression sociale. Donc voilà, être représentant de la nation, c'est défendre les droits de celles et ceux qui travaillent et non d'accompagner leur démantèlement. Nous appelons au respect et au renforcement du 1er mai comme jour chômé payé et consacré aux luttes sociales. Alors, face à cela, bien, je crois que sur les trois députés, il n'y a eu qu'une réponse, celle du député Sansu.
C'est ça,
bon, les deux autres, on est moins surpris, au moins par courtoisie qu'ils répondent, mais on sait qu'ils défendent les convictions, dont un qui est chez Renaissance. Et Renaissance, c'est le groupe de députés piloté par Gabriel Attal qui a remis au goût du jour cette réforme du 1er mai. Donc, on peut comprendre qu'ils soient gênés aux entournures, mais au moins par courtoisie, qu'ils nous répondent un peu ce qu'on a. Donc, ben, la meilleure réponse, Tony, d'amener pour conclure sur ce thème, c'est de se mobiliser fortement.
C'est de se mobiliser le 1er mai à Vierzon.
Alors, voilà.
Rendez-vous à
tant qu'on est dans l'agenda, l'organisation est à peu près fixée.
Donc l'union locale, la manifestation démarrera à partir de 10h30, place de la Résistance.
Tout un symbole.
Et nous finirons à la stèle des résistants. Donc,
voilà. Eh bien, je pense
que ça sera un autre symbole.
Voilà. Donc le parcours qu'on souhaite ensoleillé, chaleureux, vibrant, musical et festif, hein, parce que c'est un jour de fête.
Et n'hésitez pas à venir avec vos slogans. D'ailleurs, moi, je viendrai avec ma pancarte. Le 1er mai est à nous.
Eh bien oui. Et puis qu'il le reste.
Et qu'il le reste.
Alors bon, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a quelques pressions de syndicats ou d'organisations, ou voire même de parlementaires, qui a fait que le ministre du Travail, bon, pour le moment, remette la chose à 2027. Alors qu'il va se passer plein de choses en 2027, je ne sais pas s'ils auront le temps de tout finir. J'ai l'impression qu'ils soldent les comptes en ce moment, donc ça défouraille à tout va, toujours dans le même sens. Donc à un moment donné, effectivement, la seule réponse qu'il faut leur amener, c'est un 1er mai puissant, massif et... Et ça leur permettra de réfléchir à autre chose. Et je pense qu'il y a bien des dossiers à défendre avant de s'attaquer à ce symbole qui est donc ce 1er mai.
raison. Pas question de trahir, même pour sauver sa peau. Et pour ça, rien à dire, on n'est pas tous escrocs. Les escrocs d'aujourd'hui laissent des gens sur le carreau. Et jamais de leur vie ne verront les barreaux. Leurs avocats béton les mettront à la vie. Ils nous prennent pour des cons. Les escrocs d'aujourd'hui. Les escrocs d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, quand les uns rêvaient trop, quand les autres licencient, quand on voit les escrocs d'hier et d'aujourd'hui, je ressens un peu trop comme de la nostalgie.
Voilà, on arrive donc effectivement, on approche de la fin de l'émission, hein, avant de nous quitter quelques rendez-vous. Donc on l'a dit, Tony l'a détaillé, l'organisation du défilé du 1er mai. On a une autre date, le 5 mai, où la CGT a convoqué une assemblée générale de ses syndicats pour faire un petit peu le point, voilà, parce que la situation évolue, nationale, internationale et locale, nous oblige effectivement à nous remobiliser un petit peu. Donc ce sera l'occasion de faire le tour de table de tous les syndicats pour voir où on en est et surtout où on va. Alors je rappelle que la CGT tiendra son congrès confédéral à Tours au mois de juin prochain, donc là c'est si peu. On reviendra un petit peu sur ces travaux du congrès comme on a traditionnellement l'occasion de le faire. Quant à nous, ben, prochain rendez-vous c'est le 26 mai, même lieu, même heure, hein. Si vous voulez nous contacter, donc c'est simple, l'adresse c'est 11 rue Marcel Perrin à Vierzon, le téléphone le 02 48 75 05 43. Et le mail, c'est cgt.ul.vierzon@wanadoo.fr. Eh bien, merci à Tony qui a partagé le micro avec moi.
Merci Michel.
Merci à David qui était aux manettes de l'émission. Et bonsoir à tous, bonne soirée, ciao, bye bye. Arrivederci, auf Wiedersehen, comme on dit. Et surtout, on ne lâche rien.